histoire, toute la culture que j'aime, c'est maintenant. Vous êtes toujours sur IDFM Radio. Pour cette édition, je reçois Gilbert Ponté, bonsoir, qui va nous parler théâtre. Restez avec nous, le joueur d'échecs, nouvelle de Stéphane Zweig au théâtre Essaillon. Si c'est un homme, pièce de Primo Levi au théâtre Essaillon également. Et nous irons également du côté de la maison de Radio France pour le fameux festival, l'Hyper Weekend Festival, musique actuelle, talent émergent, éclectisme musical. Tout d'abord, une pause musicale, on écoute Daniel Balavoine, Vivre ou survivre. Vous êtes toujours sur IDFM Radio, toute la culture que j'aime. Vous venez d'entendre Balavoine, Daniel Balavoine, Vivre ou survivre. Et je reçois donc Gilbert Ponté, comédien, metteur en scène. Bonsoir.
Bonsoir.
Très heureux de vous retrouver dans nos locaux. Vous jouez deux pièces en ce moment. Le joueur d'échecs de Zweig. Au théâtre Essaillon à Paris. Alors je rappelle le joueur d'échecs, c'est une confrontation entre un champion du monde d'échecs qui est lui est un personnage plutôt arrogant face à un mystérieux docteur. Vous êtes seul en scène avec un décor minimaliste, juste le texte. Mais alors, quel texte, hein, vous incarnez à merveille cet univers passant d'un personnage à l'autre. Je vous conseille vraiment d'aller voir Le joueur d'échecs de Zweig. D'ailleurs, vous jouez dans une autre pièce, toujours dans ce théâtre, mais ça, on en parlera après, c'est Si c'est un homme. Pour ce qui est du joueur d'échecs, Gilbert Pontet, vous aimez les textes forts. Alors, qu'est-ce qui vous touche particulièrement dans le joueur d'échecs?
Le joueur d'échecs, hein, il y a, comme vous l'avez dit, il y a trois personnages. Hein. Il y a le narrateur, qui est Stefan Zweig. Il y a l'homme mystérieux, qui est appelé le docteur B. Et il y a ce fameux joueur d'échecs, Tchenkovic. Qui est une espèce de d'homme rustre, pas très intelligent, que les gens prennent pour un crétin d'ailleurs, mais qui est un génie des échecs. Et ces trois personnages sont assez étonnants, et il va y avoir cette confrontation entre ce docteur B, l'homme mystérieux, et Tchenkovic, qui est ce joueur d'échecs tout à fait abruti, qui représente en fait, il faut rappeler que Zweig a écrit, c'est son dernier texte qu'il a écrit avant de se suicider en 1942, et qui a été publié après sa mort. Et il l'a écrit sur un bateau qui l'amenait justement en Argentine, au Brésil, et il a écrit cette petite nouvelle qui est une critique du nazisme, quand même, il faut le dire.
Bien évidemment,
la profondeur, hein, c'est ça, c'est la critique du nazisme, avec ce personnage de joueur d'échecs qui, pour moi, m'a toujours représenté, le nazisme dans sa cruauté, dans sa bêtise. Ce qui m'a intéressé vraiment dans ce texte, c'est de voir que l'intelligence est toujours détruite et n'est jamais vainqueur par rapport à la bêtise. C'est ça qui est terrible.
Terrible d'actualité d'ailleurs.
Oui,
également,
tout à fait.
Terrible système totalitaire. Vous restez avec nous, Gilbert. Hein. Je vais juste faire l'interview d'un festival. Je ne sais pas si vous connaissez le festival, l'Hyper Weekend Festival à la Maison de Radio France. Ça commence ce soir. Voilà, donc on reçoit la déléguée, une des déléguées principales du festival. On vous reprend tout de suite après, hein, je rappelle, on va continuer à parler du joueur d'échecs au Théâtre Essaillon. Mais là, on appelle tout de suite Madame Kaufmann.
Imagine deux femmes comme toi et moi. Il y a 3000 ans, avec les mêmes discussions, les mêmes réflexions, les mêmes désirs de changer, même les mêmes combats à mener. L'une dit à l'autre, je suis fatiguée dans l'âme, et je pense au lendemain de mes états d'âme. Et je ne veux pas me lever. Toujours ces deux femmes comme toi et moi. Là, maintenant, on a les mêmes discussions, les mêmes réflexions, les mêmes désirs de changer, même les mêmes combats à mener. L'une dit à l'autre, j'ai de l'espoir pour notre avenir. Et je pense me dit que c'était pire. On aura des trucs à raconter.
Vous êtes toujours sur IDFM Radio, toute la culture que j'aime. Nous venons d'entendre Gilda. L'extrait s'appelle Utopiste. Voilà, c'est une chanteuse franco-brésilienne, funk, yoruba, qui donc sera dans ce fameux festival qui commence ce soir. C'est l'Hyper Weekend Festival à la Maison de Radio France. Un festival qui privilégie toutes les créations musical, l'éclectisme avec des talents émergents, des jeunes artistes, des artistes plus confirmés que l'on va retrouver. Et pour nous en parler, je reçois Aurélie Kaufmann, la déléguée de la coordination générale. Bonsoir.
Bonsoir.
Il s'agit donc de la 5e édition du festival qui commence dès ce soir. C'est un grand rendez-vous totalement inédit qui a la particularité de mêler tous les styles, que ce soit, alors je vais pas tous les citer, électro, R&B, flamenco, pop, rap, folk, variété, etc., etc. Ce festival propose des créations entendues nulle part ailleurs et mêle même des artistes avec de grands orchestres symphoniques ou des chœurs, notamment le chœur de Radio France. 60 concerts en tout, dont 20, donc je viens de le dire, 20 créations originales, dans 8 lieux différents partout dans la grande maison de Radio France. Aurélie Kaufmann, quelle est la particularité principale de ce festival?
Alors, le festival a pour ADN de faire dialoguer toutes les esthétiques musicales. C'est vraiment la force du festival qui ouvre la saison du festival, puisque nous sommes en janvier, et ça nous permet de pouvoir rassembler de nombreux artistes qui vont proposer effectivement des créations. Donc, on propose 20 créations durant 3 jours et 3 nuits, ce qui représente un record. C'est assez rare que un festival, un événement culturel en France propose autant de créations et offre aux artistes des espaces de jeu, de création, comme nulle part ailleurs.
Juste un détail pratique, comment se passent les réservations? Parce que je vois par exemple pour le concert de Youssoupha, c'est dans les 40 euros. Pour Camille, on a différents tarifs, il y a El Naïm aussi. Mais il y a beaucoup de concerts gratuits. Alors, comment ça se passe?
Oui, alors pour cette édition anniversaire, pour fêter ces 5 années d'existence, cette année, on a mis la barre haute avec Didier Varro, le directeur musical des antennes de Radio France, où on propose plus de 35 rendez-vous gratuits à tous les publics. C'est aussi une particularité du Festival de Radio France, c'est de pouvoir proposer de venir à la Maison de la Radio et de la Musique à Paris sans forcément avoir un billet. Donc les spectateurs vont pouvoir déambuler dans la Maison de la Radio et de la Musique, découvrir à l'Agora une programmation entièrement gratuite avec par exemple Leïla K, cette jeune chorégraphe prodige qui va présenter des extraits de son spectacle Maldon, qui va d'ailleurs être donné début février à l'Olympia. Nous, à l'Hyper Weekend Festival, on propose au public de découvrir Leïla K qui danse avec 5 autres danseuses gratuitement à l'Agora samedi et dimanche. On pourra retrouver aussi le jeune rappeur Virus qui va offrir des joutes verbales en partenariat avec la Cité internationale de la langue française. Et là, on va avoir plus de 6 rendez-vous où le public va pouvoir découvrir comment on peut se saisir de la langue française et s'amuser avec.
Oui, il y aura également de jeunes artistes, en tout cas de la scène actuelle. Je pense notamment à Marguerite.
Oui, alors Marguerite est à retrouver au studio 104 vendredi soir. Elle va nous proposer une création originale qu'elle a conçue spécialement pour l'Hyper Weekend Festival, où on va pouvoir découvrir ses invités surprises. C'est une création qui est très attendue, tout comme celle de Camille avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France, ou encore, on a parlé tout à l'heure de Yael Naïm avec le chœur de Radio France. Et on a cet artiste absolument génial qui se nomme Tilassine, qui lui va ouvrir le festival avec la maîtrise de Radio France. Donc on a les forces vives de la maison, trois des quatre formations musicales de Radio France qui vont se produire pour la première fois à l'Hyper Weekend Festival.
Oui, alors par exemple, vous parliez là de la création avec Camille et l'orchestre, l'immense, le fabuleux Orchestre Symphonique de Radio France. Comment s'est déroulée la création, sur quel titre vous êtes-vous basé, voilà, sur quelle de ces chansons?
Alors, ce qui est vraiment formidable à l'Hyper Weekend Festival, c'est que les artistes se saisissent complètement de la création qu'on leur confie. Et Camille a travaillé avec son compagnon Clément Ducol, qui est l'arrangeur du concert. Ils ont travaillé sur des titres des précédents albums de Camille qu'ils ont envie de proposer en version symphonique, des nouveaux titres de Camille et puis aussi quelques titres d'Emilia Pérez. Donc
oui,
les répétitions sont
oui.
en cours. Oui, tout à fait, du
oui.
film. Les répétitions sont en cours. Les musiciens de l'Orchestre Philharmonique répètent avec Camille. Et ça va donner l'occasion d'un très beau concert samedi soir à 20h, qui sera aussi à réécouter en direct sur Phi, puisque la particularité de ce festival de Radio France, c'est qu'il rayonne sur toutes les antennes du groupe.
Oui.
Donc vous pourrez, pour toutes les personnes qui n'ont pas leur billet ou qui n'habitent pas à Paris, pourront écouter les concerts en direct sur France Inter, sur FIP, sur MOVE, sur ICI, sur France Musique. Tout ce programme est à retrouver sur le site de l'Hyper Weekend pour les personnes qui souhaiteraient avoir les horaires très précis.
Oui, en tout cas, il y a donc une possibilité de rentrer dans la maison de Radio France dès ce soir sans billet.
Tout à fait.
D'accord.
Dès ce soir, vous avez au foyer C la scène Déjà Demain, qui est la scène des artistes de demain. Et chaque soir, vous avez 5 concerts gratuits de jeunes artistes, comme par exemple Bonnie, Pap The Kid, Lu, Amandine, Bonjour. Vous avez vraiment la jeune scène qui va sans doute briller prochainement, je ne sais pas, peut-être pour une victoire de la musique.
Oui.
Ce qui est aussi une des forces du festival, c'est qu'on programme beaucoup d'artistes émergents. Et vous avez sans doute pu entendre Santa, Pierre Demar, November Ultra, Zao de Sagazan. Tous ces artistes-là sont passés au début de leur carrière à l'Hyper Weekend Festival et sont aujourd'hui ces artistes qu'on entend beaucoup à la radio et à la télévision.
Oui, alors là, on aura la chance de voir Sam Sauvage, hein, qui est nominé là pour février, hein, Victoire de la Musique.
Tout à fait. On a plusieurs artistes Hyper Weekend Festival qui sont nommés aux Victoires de la Musique, dont vous avez dit Sam Sauvage. Il y a aussi Charlotte Cardin, il y a aussi Marguerite, il y a aussi Théodora, qui est passée l'année dernière dans la création de Chili Gonzalez. Donc oui, l'Hyper Weekend Festival est un révélateur de talent.
Oui, on a écouté tout à l'heure Balavoine. Alors l'original, hein, de Vivre ou survivre. Balavoine, il y aura une espèce de carte blanche autour de Balavoine, notamment par Youssoupha. Ça va être formidable. C'est dimanche, hein.
Alors tout à fait, c'est dimanche. Il reste encore quelques places pour les personnes qui souhaiteraient découvrir cette création proposée par le rappeur Youssoupha, qui va donc réinterpréter le répertoire de Balavoine. C'est donc dimanche à 20h à l'auditorium de Radio France. Et pour les personnes qui auront la chance de nous rejoindre à la Maison de la Radio et de la Musique, pourront aussi découvrir une exposition de photos qui retrace les grandes lignes de la vie de Daniel Balavoine.
Oui, est-ce que vous savez d'ailleurs, est-ce que le public pourra se procurer un album, par exemple l'album de Youssoupha, Tribute to Balavoine?
Alors, Malheureusement non, en tout cas pas à ce jour. En revanche, le public pourra écouter en direct Youssoufa sur France Inter et découvrir la création en même temps que les spectateurs qui seront à l'auditorium de Radio France.
Très bien. Alors, y a-t-il des artistes qui se produisent pour la première fois ?
Alors oui, on a des artistes qui se produisent pour la première fois ou des artistes qui proposent des avant-premières. Vous avez par exemple le jeune artiste prodige du flamenco, Geray Cortés, qui fera sa première scène parisienne à l'Hyper Weekend Festival de Radio France.
Et ça, ce sera le
samedi à 22h30 à l'Auditorium de Radio France. Et pour les personnes qui ne sont pas chez nous, pourront l'écouter en direct sur site.
Il y a également les hyper rencontres avec le... Alors là, c'est plutôt un mélange entre la cuisine et les chansons avec le fameux journaliste culinaire Jordan Moualim.
Oui, alors les hyper rencontres, ce sont des moments suspendus que l'on propose au public gratuitement, où ils peuvent rencontrer les artistes, et ce sont plutôt des rencontres parlées. Donc vous avez justement dit Jordan Moualim qui va échanger autour de comment on cuisine des chansons avec le jeune rappeur Turi. On va aussi accueillir une hyper rencontre autour d'une thématique qui va beaucoup faire parler d'elle, qui est la suivante, Star Academy ou Hyper Weekend Festival, que choisir ? Donc là, c'est comment on accompagne les jeunes artistes dans l'émergence et puis dans le développement d'une carrière, et comment Radio France est aussi un acteur majeur de la révélation de la jeune scène française. On va aussi avoir des discussions avec Tilassine sur comment on fait une création pendant un voyage, puisque Tilassine a composé son dernier album lors d'un voyage en Namibie à la rencontre des populations. Donc on va pouvoir échanger avec lui sur ce sujet-là. On ouvre les hyper rencontres le vendredi à 18h avec France Culture, qui va nous proposer un instant poésie avec la chanteuse Imani. Donc c'est 6 rencontres qui sont complètement ouvertes au public et qui se déroulent à l'Agora.
Oui, on parlait tout à l'heure des lieux, finalement de tous les lieux qui sont ouverts à Radio France. Il y a l'Agora, il y a les foyers, il y a bien sûr vos deux grandes salles et il y a le 22e étage. Alors là, c'est par contre un accès payant ?
Oui, c'est payant. C'est payant et c'est complet.
C'est complet.
Le public raffole de ces concerts. Alors là, c'est vraiment le 22e étage, c'est des concerts au 22e ciel. Vous avez une vue absolument remarquable sur tout Paris. Et lorsque la nuit tombe, c'est absolument magnifique. Donc les artistes se produisent dans un lieu magique pour un public assez chanceux, puisque c'est à peu près 80 personnes qui pourront écouter tout à l'heure Kiala Ogawa ou Chloé Antoniotti demain ou Lossa Pardo dimanche.
Oui. Est-ce qu'il y a un pass festival ?
Alors, il n'y a pas de pass. Le public est plutôt invité à réserver ses billets pour le concert ou les concerts qu'il souhaite découvrir au festival. La particularité, c'est qu'on est donc à la Maison de la Radio et de la Musique, que les salles n'accueillent pas forcément le même nombre de personnes. Donc les passes sont pas très évidents à gérer, mais en revanche, on facilite énormément le public pour qu'il vienne circuler dans toute la maison.
Très bien. Et on peut acheter des billets sur place ?
Oui, tout à fait. Vous pouvez venir sur place pour trouver soit la place tout à fait rare, peut-être que quand c'est complet, on arrive toujours à faire plaisir aux gens et à trouver une place pour les faire rentrer dans la salle, soit il y a certains concerts pour lesquels il nous reste encore quelques places et auquel cas les personnes peuvent réserver en venant directement à la Maison de la Radio et de la Musique.
Merci, merci beaucoup Aurélie Kaufmann. C'est vraiment un festival remarquable. Merci, donc je rappelle, c'est l'Hyper Weekend Festival dès ce soir à la Maison de Radio France. Et ce week-end, on écoute Yael Naïm, Yashanti, Yael Naïm, qui se produit dans le festival dimanche à 22h15 avec le chœur de Radio France. Ça va être magique.
Tout à fait.
Merci, on écoute.
אם אתה איתי ולא אחר בחלום שלי מהר חבק אותי לפני שאת עורר
En Ile-de-France, vous écoutez IDFM Radio sur le 98FM et en DAB+.
Nous venons d'entendre Yael Naïm Yashanti. Nous poursuivons avec le comédien metteur en scène Gilbert Pontet. Alors, nous parlons du joueur d'échecs au théâtre Essaillon à Paris jusqu'au 30 mars. C'est une pièce qui nous tient en haleine, où il y a du suspense. Pourquoi ? Parce que il y a évidemment cette confrontation entre deux grands de l'échec.
Bah, c'est surtout l'art de Stefan Zweig de mener un récit, d'avoir toutes les possibilités et toutes les astuces du raconteur d'histoire. Donc c'est pour ça qu'il sait mettre du suspense, il sait retenir l'attention du récit et surtout il a toujours cette manière d'aborder le récit avec des personnages qui sont intrigants, qu'on se demande toujours qui est-ce. Donc ça attise la curiosité du spectateur et à chaque fois on est maintenu en haleine, on se dit et alors qu'est-ce qui va se passer et la suite, qu'est-ce qui va se passer.
Vous avez cette faculté, cette particularité, Gilbert Pontet, de nous plonger complètement dans l'histoire alors que finalement il y a très peu de décors.
Bah, je fais pas grand chose, hein. Moi, je suis un porte-voix des auteurs. Donc, je suis à leur service et j'essaie vraiment d'incarner la chair et les os et les nerfs de ce que a tenté de faire l'auteur. Je suis vraiment le porte-voix des auteurs et c'est ce qui m'intéresse. Et je me mets pas, disons, en avant. C'est le texte que je mets en avant et je considère vraiment c'est voulu de pas avoir de décor, de pas avoir d'artifice, parce qu'aujourd'hui on a la possibilité de voir des grands spectacles, de pouvoir avec des grandes machineries, avec des beaux éclairages et tout, et moi je considère que c'est l'acteur qui est primordial et l'auteur surtout. Et pour écouter un auteur, eh ben il faut vraiment qu'il y ait peu de choses sur scène, que l'acteur qui soit là avec sa voix, son corps, et faire confiance surtout à l'imagination du public. En fait, je pense que le public est intelligent et il est capable d'imaginer par lui-même tout ce qu'il entend. et de voir par lui-même tout ce qui n'est pas sur scène. Et c'est rendre, moi je dis toujours, j'essaie de rendre visible l'invisible. Et je pense également que le théâtre est le seul endroit de liberté pour le public. Il a toutes les possibilités, le public, de dormir, de s'ennuyer, de ne pas écouter, d'écouter et d'imaginer. Et il est totalement libre par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui, par ce flot d'images qui submerge les individus. Et là, au théâtre, non. Il est seul, il est avec un acteur et il a les possibilités, il a toute son imagination qui est mise en action.
Ah ben là, je peux vous garantir que le public écoute totalement. Mmh. C'est-à-dire que le bateau, on le voit, hein, puisque la partie se passe sur un bateau.
Oui.
L'échiquier, on le voit. McConnor, on le voit. Bref, le joueur d'échecs, le champion du monde, Sven Tovik. On imagine qu'il est, c'est un odieux personnage.
Oui, tout à fait, oui.
Voilà. Et le docteur B, on comprend tout ce qui lui est arrivé.
Oui, on va pas dévoiler tout ce qui lui est arrivé et pourquoi il va nous faire un long récit d'une petite trentaine de minutes et qui est assez extraordinaire au niveau de l'écriture et au niveau de la structure même du récit.
Oui, alors c'est un spectacle court qui dure 1h15.
Oui.
Comme je le disais tout à l'heure, on ne voit pas le temps passer. Vous nous tenez totalement en haleine. Le texte a été adapté ou est-ce que c'est la nouvelle?
Vraiment le texte de Zweig, mais adapté, coupé. J'ai fait des coupures pour que le récit soit pas, parce qu'il doit durer 3 heures. Sinon, mais c'est un petit livre, hein, vraiment. C'est pas 300 pages, hein, c'est 120 pages, et donc il se lit très facilement. Oui. Et c'est étonnant combien le public est attiré par Zweig. Il faut dire quand même que c'est l'auteur le plus lu au monde. Et à une époque, on a dit les critiques disaient, de toute façon, cet auteur, on n'en entendra plus parler une fois qu'il sera mort. Et ben, ils se sont trompés parce qu'aujourd'hui, c'est quand même l'auteur le plus lu au monde.
Oui, c'est vrai que il a quelque chose dans son style, hein, qui est extraordinaire.
Oui, tout à fait. Et puis il a écrit des textes extraordinaires. Il a une intelligence étonnante et il a écrit des biographies que j'invite à les lire.
Oui, la biographie de Marie-Antoinette, notamment.
Oui, voilà. Donc il est vraiment, j'aime beaucoup ces auteurs. Et bon, il s'est suicidé parce qu'il pouvait pas supporter que son pays, l'Autriche, soit tombé aux mains des nazis. Voilà.
Oui. Alors, nous allons parler, après la pause musicale, de la deuxième pièce dans laquelle vous jouez, hein, Si c'est un homme de Primo Levi. Vous nous expliquerez après. Elles ont un point commun, c'est-à-dire que toutes deux, quand même, révèlent parlent du nazisme, hein, de la Gestapo. Hein, et chacun, dans chaque pièce, le personnage va raconter vraiment son histoire. Hein. On vous reprend tout de suite. On écoute Camille, cette chanteuse, qui sera d'ailleurs à l'Hyper Weekend Festival. Le titre, c'est Paris. C'est son premier album, Le Sac des Filles, en 2002. Camille.
Fini les balades le long du canal, les escaliers des cartes postales. C'est fini, Paris. C'est décidé, je me barre. Fini le ciel gris, les matins moroses. On n'est qu'à Toulouse, les briques sont roses. Là-bas, Paris, les briques sont roses. Paris, Paris, que je te quitte, que je change de cap de capitale. Paris, 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 que je te quitte, je te plaque sur le trottoir sale. Je connais trop ta bouche, bouche de métro, les bateaux mouchés, la couleur de l'eau. C'est fini, Paris. Je les connais trop. Ici je m'ennuie, même quand vient la nuit, on dit que ces villes s'éveillent à minuit. Là-bas, Paris, la ville s'éveille à minuit. Ah, Paris, 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 que je te quitte. Que je te quitte, que je te plaque sur les trottoirs sales. Paris, 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 que je te quitte.
En Ile-de-France, vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM et en DAB+.
Vous êtes toujours sur IDFM Radio, toute la culture que j'aime. Nous venons d'entendre Camille Paris, extrait de son premier album, Le Sac des Filles. Je suis toujours en compagnie de Gilbert Pontet. Gilbert, nous venons de parler donc du joueur d'échecs hein, que vous jouez actuellement. C'est un seul en scène au théâtre Essaillon, le lundi à 19h jusqu'au 30 mars. Et parallèlement, vous jouez, enfin le lendemain, on va dire tous les mardis et mercredis à 19h également au théâtre Essaillon, Si c'est un homme, de Primo Levi. Alors, vous parliez tout à l'heure de théâtre, de seul en scène fort qui fait ressortir le texte. Moi, je parle d'immersion. Parce que là, bon, déjà, l'œuvre est puissante, hein, si c'est un homme. Vous allez nous en parler. D'ailleurs, racontez-nous. Ouais. Quel est finalement le propos? L'histoire.
Primo Levi est quand même un auteur important italien, un des plus grands auteurs du 20e siècle, et il a écrit, dès sa libération d'Auschwitz, il a écrit un témoignage qui est totalement universel sur ce moment d'histoire terrible, cruel, inimaginable. Et il a voulu absolument témoigner. Et toute sa vie, il a parcouru le monde pour dire l'horreur du nazisme et des camps de concentration. Et donc, il a écrit ce livre, Si c'est un homme. Et je dis toujours, il n'a pas écrit Si c'est un juif. Il a écrit Si c'est un homme, parce qu'il a voulu vraiment donner une portée, une valeur universelle à ce qu'il avait vécu et vu, et qu'il devait absolument raconter. Et donc, j'ai adapté des moments de son récit sur scène. Et il m'a semblé important que cette parole soit délivrée aujourd'hui par un acteur sur scène.
Ouais, c'est très fort. Franchement, je veux pas dramatiser parce que la pièce est tellement belle, tellement magnifique.
Oui, ce qui atteint, il faut dire vraiment aux auditeurs que c'est, il y a aucun pathos, il y a pas, c'est une explication clinique de ce qui s'est passé à ce moment-là, et donc on suit cet homme par ses réflexions. Il y a trois strates, on pourrait dire. Il y a le narrateur, Primo Levi. Il y a le scientifique, qu'il était d'ailleurs, chimiste, qui analyse ce qui s'est passé. Et il y a le revivre, disons, en direct de certaines scènes. Donc il y a trois niveaux qui sont très importants et que j'espère avoir réussi à rendre.
Oui, ben vous parlez de sa captivité. Enfin, il parle, puisque oui, c'est une autobiographie.
Tout à fait.
Il faut le savoir que Primo Levi, cet auteur italien qui a écrit notamment « Si c'est un homme », c'est vraiment ce qu'il a vécu. Donc c'est vraiment sa captivité à Auschwitz. Hein.
Oui,
il a été il a pu être libéré, mais enfin c'est voilà, il a été emprisonné combien de temps?
Bah un an, et un an. Il se demandait toujours comment il avait fait pour survivre à cet enfer.
Oui.
Qui est un peu l'enfer de Dante, hein, comme il dit, et il raconte cet enfer et se demandant comment on pouvait survivre et surtout comment l'homme était capable d'arriver à ses extrémités.
Ah oui, oui. Et il parle du lager. Le lager,
c'est le camp.
C'est le camp, hein,
oui,
c'est ça.
Oui, le lager, c'est le camp. Voilà.
Il explique, hein,
Et il explique très bien comment ça fonctionnait, comment. Et ce qu'il y a d'extraordinaire dans ce texte et qui est assez surprenant, c'est qu'il en parle comme du théâtre. Parce que tout le long de son récit, il est tellement abasourdi qu'il se dit, non, c'est pas vrai, c'est une fiction. Ce que je suis en train de vivre n'est pas réel. C'est du théâtre. Et il le dit, acte 1, il se passe ça. Acte 2, il se passe ça. Acte 3, il se passe ça. Et il y a une sidération de ce qu'il est en train de vivre et qu'on ressent bien, je pense, dans son écrit.
Oui, oui. Et donc, il parle du lager, on le disait tout à l'heure, avec vraiment l'organisation du camp, le fonctionnement. Hein, les 60 blocs avec 200 personnes, enfin bon,
oui.
On va pas tout révéler non plus à nos auditeurs.
Et on sent bien qu'il y avait des gens qui étaient là pour faire un certain travail et puis c'est tout. Ils se posaient pas de questions.
Oui. Le texte, donc le livre, si c'est un homme, écrit en 47 également.
Oui, c'est ça, juste à la sortie hein, de sa captivité.
Juste après. Oui,
tout
oui,
à
oui.
fait.
Le texte a été adapté, hein, bien sûr, puisque sinon ça ferait 2-3 heures de spectacle.
Oui, oui.
Là, c'est un court seul en scène hein, qui dure 1h15. Il existe. Il a déjà été monté en théâtre.
En Italie, oui.
Oui.
Oui, et il a été, je pense, monté en France, mais il y a une vingtaine d'années. Voilà, à Vincennes, je crois.
Oui, oui, je crois qu'il y a eu en effet dans les en 2005 ou quelque chose comme
oui,
ça.
Oui, tout
hein.
à fait, oui.
Oui. Et donc là, en fait, ce qui est incroyable, c'est que vous êtes seul en scène, on le disait tout à l'heure, mais vous quand même vous interprétez plusieurs personnages finalement. Là aussi.
Oui, oui, il y a plusieurs personnages. Hein. Comme je vous l'ai dit, il y a des moments où il revit et donc il rejoue ses personnages hein, avant d'analyser la situation qu'il a décrite.
Oui.
Tout à fait.
Alors, on parlait tout à l'heure du joueur d'échecs. Encore que vous jouez la veille, le lundi. Si c'est un homme, vous jouez le lendemain, le mardi et d'ailleurs le mercredi. Il y a quand même, hein, je le disais tout à l'heure, mais j'aimerais avoir votre point de vue, il y a quand même un point commun entre les deux pièces. Toutes les deux parlent de l'histoire cachée d'un homme.
Tout à fait, oui.
Est-ce que c'est un hasard ou pas finalement? Comment avez-vous choisi
de monter ces deux pièces? Des êtres extraordinaires et des personnages extraordinaires et qui luttent pour la vie et qui luttent pour un idéal. Et je me posais la question parce que j'ai joué trois textes, un qui s'appelait Colas, qui était sur la justice de Heinrich von Kleist, et j'ai joué le joueur d'échecs et je joue Si c'est un homme, et ces trois personnages se sont suicidés.
Et voilà le point commun.
Voilà le point commun. Mais pourquoi ? Parce que c'était des gens qui sont allés au bout de leurs convictions et qui ont essayé de se battre pour ce qu'ils pensaient juste, utile pour l'humanité.
Oui. Alors, on vous connaît bien, hein, Gilbert Ponté, pour toutes vos mises en scène. Il y a eu notamment... vous aviez fait cette épopée hein, sur les Giacomo. Hein.
Oui, sur les Giacomo, oui, c'était l'histoire de mes parents et de l'immigration aussi. Voilà. Et puis, j'ai fait un très beau spectacle qui s'appelait « De Pékin à Lampedusa » sur une athlète somalienne qui est morte à Lampedusa. Et là, c'était sur le vraiment le racisme. Et donc j'aime les thèmes
forts, sociétaux,
oui, tout à fait,
et
oui,
forts
et universels qui ne vieillissent pas, hélas.
Oui, vous aviez également écrit La dernière nuit de Molière.
Oui, La dernière nuit de Molière aussi. Aussi un homme exceptionnel.
Oui, ça c'était en 2013. Hein.
Voilà, tout à fait.
On va faire une pause musicale, on vous reprend tout de suite après pour parler de votre compagnie et de tout le travail que vous faites auprès des jeunes générations. Hein. Mm-hmm. On vous reprend tout de suite, on écoute Yael Naïm, Night Songs.
I'll try to find a way to fly, but yet to stay, I'll try to find a way. I'll try to just rewind, forget it will be fine. I'll try to just rewind. God help me not to fall. How calm we've grown so tall. God help me not to fall.
Vous êtes toujours sur IDFM Radio, toute la culture que j'aime. Gilbert Ponté, donc nous parlions de des deux pièces dans lesquelles vous jouez actuellement, hein, mm-hmm. Au théâtre Essaillon à Paris. Le joueur d'échecs de Stefan Zweig, Si c'est un homme de Primo Levi. Je le disais, c'est une de formidable incarnation. On est totalement happé. C'est vraiment une très très belle prestation. Comment faites-vous pour passer d'un univers à l'autre ? Parce que c'est quand même le lundi, vous jouez Zweig, qui est déjà une pièce, attention, hein. Mm-hmm. Il faut y aller au niveau concentration.
C'est la question qu'on me pose à chaque fois. Est-ce qu'on est vraiment une machine? Mais le cerveau de l'homme est extraordinairement bien fait. Il ne mélange pas les genres et on arrive à jouer plusieurs spectacles. C'est assez étonnant parce qu'on tire un fil et hop, d'un seul coup, les mots, ils savent où ils doivent se mettre, à quel spectacle, et il a à faire le cerveau. Et c'est quand même, je dois l'avouer, beaucoup de travail. Hein. C'est comme un musicien ou un pianiste, un virtuose. Il est capable de jouer différentes partitions d'un jour sur l'autre. Le comédien, surtout dans cet exercice, parce que c'était vraiment un exercice spécial de pouvoir jouer des récits comme ça entiers, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup travailler.
Oui. Alors, le joueur d'échecs, vous l'aviez déjà joué il y a 2 ans.
Oui, voilà. C'était la troisième saison.
Donc, c'est ça, c'est une reprise.
Tout à fait. C'est la troisième saison et c'est une reprise. Mais c'est pas parce que c'est une reprise que c'est compliqué. C'est pas facile. Et de toute façon, je travaille tous les jours le texte. Je peux pas ne pas travailler tous les jours. Comme je dis, c'est comme un pianiste, un virtuose, il travaille tous les jours. Donc, un comédien qui se lance dans ce genre de spectacle, il doit travailler tous les jours et avoir une certaine discipline.
Ouais. Alors, pour le joueur d'échecs, par exemple, vous jouez le lundi à 19h.
Oui.
Vous répétez le week-end?
Oui. Mais je répète toute la semaine, oui.
Ouais, toute la semaine.
Oui. Et une fois sur deux, un spectacle, puis l'autre, pour qu'il soit absolument, parfait.
Et si c'est un homme, du coup, vous enchaînez le lendemain?
Oui. Mais je mets à peu près 6-7 mois pour travailler un spectacle.
Oui. Et est-ce qu'il y a, vous avez peut-être une préférence pour l'un des deux?
Non, j'ai pas de préférence. Je les aime tous les deux, ces récits, et ça me fait du bien d'être sur scène et de les jouer, surtout de les partager avec le public. C'est surtout ça qui est important.
Ouais, et vous voyez un peu la tension dans la salle.
Oui, tout à fait. C'est assez. Je suis toujours étonné vraiment que les gens écoutent ce que je raconte et ce que je propose.
Oui, c'est-à-dire que vous avez une très belle diction.
Oui, ça se travaille aussi.
Oui. Et le texte, le texte ressort de manière très puissante.
Oui, parce que c'est des textes où il y a quand même du passé simple, donc et pas que du présent, et donc c'est de la belle littérature, disons.
Oui.
Et que j'essaie de rendre accessible à tous.
Un mot sur la mise en scène de Si c'est un homme?
Si c'est un homme, il y a quand même un gros travail sur la lumière et il y a des images aussi derrière de Hansel Kiefer, ce peintre allemand dont le père était d'ailleurs nazi et qui a travaillé toute sa vie pratiquement sur ce thème-là, sur comment se fait-il que un peuple ait pu d'un seul coup souscrire à une telle horreur.
Et oui, la
et
peur.
Ces images sont vraiment étonnantes. Et j'utilise aussi un musicien Bach, qui correspond effectivement aussi à ce style rationnel, parce que Bach, la musique est très mathématique, très pensée, raisonnable, raisonnée, et je trouve que ça correspond bien à cette écriture et à ce style et à cette histoire.
Oui, vous parliez de la lumière qui est très bien réglé.
Oui, tout à fait.
Juste.
C'est vraiment le décor.
C'est Antoine
oui,
Le Gallo.
Antoine Le Gallo, qui est très très doué, et justement, c'est le décor. La lumière est devenue et le décor.
Oui. En plus, on est quand même dans un écrin. Hein. On est au théâtre Essaillon.
Oui.
En bas, de toute façon, il y a deux salles. Hein, mais
oui,
là, c'est
oui,
dans la petite.
C'est la plus petite, oui. Mais
voilà. Très intimiste. Vous y sentez bien?
Oui, je me sens bien aussi.
Oui.
Mais ça peut se jouer partout hein, aussi.
Oui,
voilà.
Mais là, c'est quand même spécialement bien propice et approprié.
Oui, tout à fait, oui.
Oui, parce que je le disais en début d'émission, pour moi, c'est presque une immersion dans le texte.
Oui, oui, effectivement.
On est avec vous. Oui, on n'est pas du tout dans la couleur ou le décor ou voilà. Là, on est vraiment.
Tout à fait.
On est dans l'action. On est dans ce qui se passe. On est dans le camp.
Voilà.
Déjà à Auschwitz. Voilà.
Oui,
on
tout
est
à fait.
Pour ce qui est de si c'est un homme et pour ce qui est du joueur d'échecs, on est sur le bateau.
Voilà.
Et on est dans la tête du champion du monde des échecs. Vous vous spécialisez maintenant dans plutôt les seules en scène, les récits, le théâtre
oui,
raconté.
Oui, j'ai toujours fait ça quand même. Hein. Ça a été toujours un peu ma raison de faire du spectacle après avoir mis en scène. Mais je continue à mettre en scène. Je continue à former des jeunes comédiens parce que maintenant je suis plus en province qu'à Paris. Et donc c'est une autre manière de concevoir le théâtre en province et à Paris.
Ouais, vous faites toujours donc de la formation auprès des jeunes générations.
Oui, voilà, oui, mais c'est important quand même de transmettre ce qu'on sait faire.
Oui. Et vous travaillez toujours auprès des publics éloignés, publics
oui.
Malentendants.
Oui, oui, je travaille toujours avec des gens qui ne viennent jamais au théâtre et qui doivent découvrir le théâtre,
oui.
Parce que c'est quand même indispensable de rechercher d'autres publics, parce que les jeunes, hélas, ne viennent plus trop au théâtre. Et donc, il y a tout un travail quand même que peut-être les institutions, que peut-être les gens qui dirigent devraient penser que le public doit se renouveler. Et hélas, il se renouvelle pas assez. Quoique, quand je joue le joueur d'échecs ou si c'est un homme, eh ben je suis très heureux parce qu'il y a pas mal de jeunes qui viennent et ça c'est vraiment, je suis très heureux.
Oui, je me demandais même si c'était de vos élèves ou pas. Parce qu'il y avait...
Non, pas du
D'accord.
tout. C'est des jeunes étudiants qui étudient Zweig, qui étudient Primo Levi, donc qui viennent découvrir ce texte en direct parce que ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est de pouvoir voir un acteur interpréter ces textes.
On rappelle les dates, Gilbert. Je vous laisse rappeler les dates pour le Zweig.
Ah oui, donc le Zweig, c'est tous les lundis jusqu'au 30 mars à 19h. Et le Si c'est un homme, c'est le mardi et le mercredi jusqu'au 1er avril à 19h.
On cite votre équipe. La compagnie.
Oui, donc c'est la Bierba Compagnie qui produit le spectacle et les lumières, la création lumière et la régie est d'Antoine Le Gallou.
Et la mise en scène.
Gilbert Ponté.
C'est aussi. Vous-même, donc voilà. Interprétation, mise en scène, Gilbert, voilà.
En tout cas, merci de m'avoir
reçu. Très beau travail. Dernière question, votre regard sur, en deux mots, sur l'actualité, parce que les deux pièces résonnent quand même totalement avec le
oui,
totalitarisme.
Oui, tout à fait, ça résonne bien avec l'actualité. Donc, comme disait justement Primo Levi, il fallait toujours continuer à témoigner et toujours se méfier de ce qui se... et être vigilant par rapport à tout ce qui se passe, parce qu'on ne sait jamais, ça peut se reproduire.
Et ça peut aller vite. On veut pas être pessimiste. Hein.
Voilà.
Écoutez, on va rester peut-être un peu optimiste quand même. Allez, on va écouter Balavoine.
Oui, tout à fait.
Allez, la vie ne m'apprend rien.
Qui ose dire qu'il peut m'apprendre les sentiments ou me montrer ce qu'il faut faire pour être grand? Qui peut changer ce que je porte dans mon sang? Qui a le droit de m'interdire d'être vivant? De quel côté se trouvent les bons ou les méchants? Leurs évangiles ont fait de moi un non-croyant. La Je n'apprends rien, je voulais juste un peu parler, choisir un train. La vie ne m'apprend rien, j'aimerais tellement m'accrocher, prendre un chemin.
L'émission Toute la culture que j'aime sur IDFM touche à sa fin. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Vendredi prochain, vous retrouverez Marie-Laure. Donc vendredi 30 janvier, Marie-Laure. Et moi-même pour la prochaine édition, vendredi 6 février. Bonne soirée.